Radio Majorité Campus, 107.6 MHz à Cayenne. Au gré des vagues, sur Radio Majorité Campus, avec Gaël Saint-Louis.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you.
Bonsoir auditeurs et auditrices de la radio Mayuri Campus. Je suis Gaëlle Saint-Louis, j'anime Au gré des vagues, comme vous le savez déjà. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous, de passer ces moments agréables, ce voyage, même si c'est un peu court. Merci à vous de nous écouter, d'écouter la radio du savoir. Avant de commencer l'émission, je veux vous dire que si vous n'avez pas encore aimé la page Facebook de la radio, c'est le moment de le faire, c'est Radio Mayuri Campus. Et si vous n'avez pas encore écouté l'émission, ben, vous pouvez toujours vous rattraper sur www.mayuricampus ou encore sur la page Facebook de la radio. Aujourd'hui, nous sommes là pour voyager. Nous allons découvrir une ville, partager des moments autour de la table, apprendre quelque chose, apprendre du monde, apprendre des autres. Ben, vous le savez, pour commencer la présentation, c'est toujours en musique, parce que la musique nous emmène, c'est aussi un voyage à travers les mots. Je vous laisse maintenant découvrir la ville qu'on va visiter aujourd'hui et je reviens vers vous.
On a chanté la Parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. Prétend qu'elle est norvégienne, fille du Nord, on le sent chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout, dans le soleil de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine de l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico, ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop. On oublie tout, sous le beau ciel de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, Allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour.
Mexico,
Mexico, Mexico. Les femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour.
Mexico, Mexico,
Mexico.
La rubrique Ajustez vos voiles.
Ajustez vos voiles, les amis, nous allons prendre la route. Aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, nous allons découvrir Mexico. Mexico, c'est la ville, on dit la ville de Mexico, ou en espagnol encore, Ciudad de Mexico. C'est à la fois une entité fédérative et aussi la capitale du Mexique. C'est fondé par les Mexicas ou encore les Aztèques sur une île du lac Texcoco, la ville précolombienne. Elle a été remplacée par les conquérants espagnols lors de la chute de l'Empire aztèque en 1521 par la première grande ville de tracé européen du continent. Dès 1522, Hernán Cortés prend la décision de construire au même endroit la capitale de la Nouvelle-Espagne qu'il nomme Mexico. Mexico est divisé en 16 démarcations territoriales qui sont dès fin 2017 dirigées par un maire élu au suffrage universel et auront un statut comparable à celui d'une municipalité. La zone métropolitaine de la vallée de Mexico est une aire urbaine définie, mais non une démarcation politique. La majorité d'entre eux vivant dans l'État de Mexico et dans l'entité fédérative, c'est 22 millions d'habitants. C'est après New York, la ville de Mexico est la 10e plus grande agglomération. Elle comprend 76 entités administratives distinctes, dont 16 délégations, 59 municipalités de l'État de Mexico. En espagnol, les habitants de Ciudad de Mexico sont parfois appelés capitalinos, ou de la capitale, ou encore distro fédéral, ou mexicano, mexicain. Il n'existe pas encore d'usage bien établi pour le nom des habitants de la nouvelle entité. Alors, Mexico s'étendait il y a 500 ans autour du lac Texcoco, comme je le disais tantôt. Et c'est sur une de ces îles que fut construite en 1325 Mexico Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque. Ce peuple dont on va parler un petit peu plus tard dans l'émission, c'était une grande ville du continent américain qui fut détruite et reconstruite par les Espagnols après la conquête. Le sous-sol de la vallée de Mexico présente des variations naturelles de perméabilité et de résistance en raison de la présence d'argile, de sédiments de l'ancien lac, de lave et de sang déposés au quaternaire. Une partie de la ville s'enfonce actuellement de 30 cm par an en raison du pompage de la nappe phréatique consommée par environ 20 millions d'habitants et de nombreuses entreprises. Alors, je sais que la chose qui vous intéresse le plus, c'est de savoir ce que vous pouvez faire à Mexico, déjà si vous voulez vous y rendre, comment vous habiller. Alors, Mexico a un climat tempéré d'altitude. Bien qu'elle soit située dans la zone intertropicale, la température moyenne sur l'année est modérée. L'hiver est plutôt sec, le printemps est la saison la plus chaude et l'été correspond à la saison des pluies de juin à septembre. Les vents dominants soufflent du nord-nord-est, les secteurs les plus bas reçoivent moins de précipitations que les parties méridionales. Même si on n'est pas en été, vous pouvez toujours vous rendre à Mexico pour visiter cette ville parce qu'il y a de belles choses à découvrir. Mais avant, je vais vous laisser écouter cette musique d'une Mexicaine d'origine. Et ensuite, nous allons parler des artistes qui ont pu faire valoir le Mexique sur dans le monde et à l'échelle internationale. De retour, nous allons continuer avec la rubrique
Brise culturelle.
Une petite piqûre de rappel pour vous dans la rubrique Brise culturelle, c'est cette rubrique qui présente les artistes de la ville ou de la région. Pour Mexique, il y en a tellement, il y a tellement de personnalités célèbres que j'ai du mal, je ne sais pas par qui commencer, mais il faut bien un début à tout. Alors, je vais commencer par Carlos Monsiváis. Il est né en 1938 à Mexico. C'est un écrivain et essayiste, mais surtout un infatigable chroniqueur de la ville Mexico. Il participait dans les mouvements politiques et des mouvements sociaux. Il parcourait la ville de Mexico à pied, en bus ou en métro, assistait aux manifestations politiques, se mêlait aux fêtes populaires, tout comme au mouvement de la contre-culture, puis transcrivait tout ce qu'il avait vu et entendu, comportement, attitude à l'écrit, permettant que tout le monde découvre à travers ses textes la réalité du pays et surtout de la capitale. Ses recueils de chroniques les plus célèbres sont « Díaz de Guardar », publié en 1971, et « Nos sin nosotros », publié en 2005. Il était aussi un défenseur des minorités sociales. Malheureusement, Carlos Monsiváis est décédé en 2010, mais ses œuvres sont toujours présentes. Il y a aussi Marcelo Ebrard. C'est un homme politique depuis les années 1990. Il avait occupé de nombreux postes dans le gouvernement de la ville de Mexico. Il a commencé sa carrière comme directeur général du gouvernement, puis il était secrétaire. Il était alors affilié au Parti révolutionnaire institutionnel. Dans l'année 2000, il se rapproche du Parti révolutionnaire démocratique et devient conseiller du maire de Mexico. En 2002, celui-ci le nomme directeur de sécurité publique de la ville, poste duquel il fut destitué en décembre lorsqu'une foule en colère lyncha trois policiers fédéraux. Malgré tout, deux ans plus tard, il remporte les élections au poste de maire de Mexico pour le Parti révolutionnaire. Son mandat s'achève en 2012, mais selon de nombreux analystes politiques, il chercha à participer aux élections présidentielles de 2012. Il y a un groupe mythique, Café Tacuba. Ce groupe est originaire du quartier de Ciudad Satélite, dans la zone métropolitaine de la ville de Mexico. Ce groupe est un groupe très emblématique du Mexique. Son nom, en fait, fait référence au restaurant Café Tacuba qui se trouve dans le centre historique de la capitale. Le groupe est intégré par Ruben Albarrán, Emmanuel Del Real Díaz, José Alfredo Ranger Arroyo et Enrique Ranger Arroyo et a commencé à se faire connaître au début des années 1990. Il est considéré par les critiques comme assez versatile puisque ses chansons sont parfois proches du rock, d'autres du hip-hop ou de la musique électronique. L'une de ses chansons les plus drôles est sans doute sans aucun doute la Chilanga Banda qui est écrite uniquement avec des mots du slang parlé à Mexico. Il y a quelqu'un qui, dont son nom reste vraiment et que vous pouvez oublier les autres personnes que j'ai présentées, mais ne pas l'oublier, elle. Elle s'appelle Frida Kahlo. Frida Kahlo est une artiste, elle est peintre. Elle est née en 1907 et décédée en 1954. Si le destin de Frida Kahlo est tragique, ponctué par la souffrance, son existence tout entière, quant à elle, sauvée par l'art et par l'amour indéfectible qu'elle a voué à Diego Rivera, célèbre artiste-peintre. Féministe engagée et anticonformiste, Frida Kahlo s'est érigée au fil des années comme une véritable icône du monde artistique. Son mythe, elle l'a construit seule, en déjouant les rouages machistes d'une société mexicaine hermétique à l'évolution des femmes. L'artiste a toujours prétendu être né en 1910, malgré qu'on lui colle l'année 1907. Elle se qualifiait même de fille de la Révolution. Frida Kahlo n'a cessé de se battre à travers son art pour la cause des femmes et des plus démunies. La situation politique mexicaine de l'époque et le contexte social ont en effet une influence considérable sur toute l'œuvre de Frida Kahlo. Après la révolution qui frappe le pays entre 1910 et 1920, le Mexique est considérablement affaibli d'un point de vue politique, économique et social. Les Mexicains se voyaient succéder au pouvoir 10 hommes qui se disputent la place de président avec une irascibilité extrême. À cette époque, le pays se reconstruit et la société mexicaine se stabilise. Cependant, certaines inégalités sociales persistent. Pour Frida Kahlo, elle montrait par son œuvre cette réalité, mais elle a aussi montré son amour, tout ce qu'elle traverse, tout ce qu'elle ressentait. En 1929, elle a épousé le célèbre muraliste Diego Rivera, un an après leur rencontre, soit 1928. En apprenant la nouvelle, le père de Frida Kahlo, très proche de sa fille, a un commentaire cinglant. Ce seront les noces d'un éléphant et d'une colombe. Tout le monde reçoit la nouvelle avec beaucoup de scepticisme, incrédule de voir cette jeune femme épouser un ogre communiste athée aux nombreuses aventures qui peint la gloire des Indiennes. Leur union est pourtant célébrée et ils s'installent dans la Maison Bleue à Coyoacán, dans le quartier des artistes et des intellectuels. Les deux amants s'aiment passionnément. Malgré cela, Diego Rivera va rapidement lui être infidèle. Frida Kahlo reste pourtant à ses côtés jusqu'à la fin, mais connaît dans le même temps de terribles déceptions aux côtés de cet homme volage, déceptions qu'elle a largement illustrées en peinture. Avant de vous présenter son œuvre, je vais vous laisser écouter une musique qu'elle aimait beaucoup, sa musique préférée.
Que abandona, cielito lindo, su primer nido. Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, muy merecido. Ese lunar que tiene cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De domingo a domingo te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Ay, 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 te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo para volver. Yo bien quisiera ir que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera. Ay, 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 ay. Árbol de la esperanza, mantente firme, que no lloren tus ojos, cielito lindo, al despedirme. Ay, 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 porque sin miro, lágrimas en tus ojos, cielito lindo, no me despido. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
C'était Cielito Lindo de Lucia Villa, la musique préférée de Frida. Elle disait aussi que je trouve épouvantable de voir les riches passer leurs jours et leurs nuits dans des parties pendant que des milliers et des milliers de gens meurent de faim. Son œuvre comporte 143 tableaux, très souvent de petit format, un certain nombre ayant été peints alors qu'elle était alitée, dont 55 autoportraits témoignant souvent de sa souffrance physique et morale. Lorsqu'elle était à l'hôpital Henry Ford, il y a un tableau aussi qui s'appelle Hôpital Henry Ford, qu'elle a peint en 1932, un autre Sans espoir, 1945, Seul ou en compagnie d'animaux, le tableau Autoportrait au collier d'épines et colibri, peint en 1940, aussi Moi et mes perroquets en 1941. Parfois des portraits de famille, ces toiles sont empreintes de culture mexicaine. Les tenues traditionnelles, les bijoux locaux, les portraits indigènes. Alors, vous pouvez toujours voir les œuvres de Frida. Il suffit juste de faire un petit détour au Mexique et le tour sera joué. J'avais envie de finir, mais j'ai failli oublier un homme, un Mexicain d'origine qui vient de la ville de Mexico. C'est un écrivain. Son nom est Georges Luis. Georges Luis Vorpi Escarante. Georges Luis Vorpi Escarante, il est né le 10 juillet 1968 à Mexico. Il était fasciné par l'œuvre de Carlo Fuente et il a commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Après s'être inscrit à un concours universitaire auquel participaient également Ignacio Padilla et Eloy Uroz, avec qui Georges Vorpi développera plus tard le manifeste de la génération du crack. Diplômé de droit de l'Université nationale autonome du Mexique, il obtient un diplôme en littérature mexicaine de la même université. Il est également titulaire d'un doctorat en études hispaniques de l'Université de Salamanque. Il est ensuite professeur invité dans les universités américaines d'Emory, de Cornell, de Princeton, ainsi que de l'Université de Pau et des Pays de la Dour et l'Université pontificale catholique du Chili. En 1991, il publie son premier recueil de nouvelles intitulé Pieza en forma de sonata para frota, aboe, cero y para, où il se penche sur l'obsession des musiciens à réussir des exécutions aussi parfaites que virtuoses. Avec son trailer À la recherche de Klingsor, en espagnol En busca de Klingsor, paru en 1999, il remporte plusieurs prix, dont le prix de Biblioteca Breve, et obtient un gros succès critique et public. Se déroulant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit d'une enquête pour découvrir qui est Klingsor, un scientifique nazi dont on a perdu la trace. Écrivain atypique, Volpi, qui est boursier Guggenheim en 2004, se documente longuement avant d'amorcer l'écriture de chacun de ses textes. Ses thèmes récurrents sont la science et ses implications, le milieu politique et les dérives de la pensée et des valeurs actuelles. Il a écrit plusieurs romans et nouvelles comme Pieza in forma de sonata, que j'ai cité tout haut, et Pesar del oscuro silencio, Días de ira, dans le recueil collectif Tres Bosquejos del Mal, paru en 1994, publié en français sous le titre Jour de colère. La paz de los sepulcros, el temperamento melancólico, sanar tu piel amarga. Il a aussi écrit El fin de la locura, publié en français sous le titre de La fin de la folie, traduit par Gabriel Lacoury. Il a publié No será la tierra en 2006. Le titre en français est Le temps des cendres. Il traduit toujours par Gabriel Lacoury. Il a écrit aussi Una novela criminal en 2018, c'est-à-dire l'an dernier, son dernier recueil en titre. C'est un roman mexicain. Ce roman mexicain est paru sous le titre L'affaire Florence Cassès, toujours traduit par Gabriel Lacouris. Il a écrit aussi un essai, La imaginación y el poder, una historia intelectual, en 1968. Le nom à retenir, Georges Luis Volpi Escarante, et ses œuvres, vous pouvez soit les consulter, parce qu'il y en a qui sont traduites en français. Le temps d'une toute petite pause et je reviens vers vous pour la rubrique que nous aimons tous. Passons à table.
Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita! Dame tu cosita! Ay! Dame tu cosita! Dame tu cosita! Ay! Dame tu cosita! Dame tu cosita! Ay! Dame tu cosita!
Muerte para aquí, muerte para allá.
Dame tu cosita, ay toma. Dame tu cosita, ay toma. Cosita. Dame tu cosita, ay toma. Cosita. Dame tu cosita, ay toma. Cosita.
Dámela, dámela bien rica. Vámonos pa' acá pa' la esquinita. Ok. Dámela que está bien bonita. Mamacita. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. Como tú lo meneas, wow. Muévete ese pam pam y grita.
¡Ah! Bienvenidos a la cripta.
Dame tu cosita, dame tu cosita,
ay,
dame tu cosita, dame tu cosita,
ay,
dame tu cosita, dame tu cosita,
ay,
dame tu cosita.
Muévete para aquí, muévete para allá.
Dame tu cosita, ay, toma. Cosita, dame tu cosita,
ay, toma.
Cosita, ay, toma. Cosita, dame tu cosita,
ay, toma.
Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady. Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy. Así que muévese, bamba, baby. Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo
me... La rubrique Passons à table.
Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, mais non, pas découvrir parce que c'est quelque chose que vous connaissez, peut-être que vous avez sûrement goûté. Ce sont les tacos. Les tacos sont des tortillas chaudes garnies de tout type de viande, voire de poisson. On parle alors de pescadillas, accompagnées ou non de fromage. Les tacos de fromage sont appelés quesadillas, encore mieux. Combinez fromage et viande, vous obtiendrez une gringa. Là d'où cela vient intéressant, c'est que les viandes sont marinées et cuisinées avec tout un tas de sauces différentes, donnant à la cuisine mexicaine une richesse et une diversité insoupçonnées. Alors... quelques exemples de tacos. Al pastor. Al pastor, c'est fait à base de viande de porc marinée et épicée. On ajoute de la coriandre et de l'oignon. C'est aussi la forme de tacos la plus répandue et ce n'est pas la moins bonne. C'est en quelque sorte le kebab mexicain. Pour reprendre l'expression de saveurmexicaine.com. Je ne vous donnerai pas la recette aujourd'hui. Personnellement, moi, je ne sais pas faire les tacos. Cependant, je voulais juste partager ce petit plat, vous parler un petit peu de ce petit plat mexicain. Voilà, on poursuit notre voyage.
Bienvenidos a la cripta.
Dame tu cosita. Dame tu cosita.
Ay,
dame tu cosita. Dame tu cosita.
Ay,
dame tu cosita. Dame tu cosita.
Ay,
dame tu cosita.
Muévete para aquí, muévete para allá.
Dame tu cosita.
Ay, toma.
Cosita, dame tu cosita.
Ay, toma.
Cosita. Dame tu cosita.
Ay, toma.
La rubrique Au bout de la vague.
Comme promis en début d'émission, je vais pas finir, je vais pas visiter la ville sans vous parler de la civilisation aztèque. La civilisation aztèque ou mexicas, tribu nomade de chasseurs-cueilleurs, a dominé le sud et le centre du Mexique au XIVe et au XVIe siècle. Le terme aztèque viendrait d'Aztlan, patrie mythique du nord du Mexique signifiant en Nahuatl terre blanche. Ce terme a été popularisé par des historiens comme le jésuite Francisco Javier Clavijero dans son ouvrage La Historia Antigua de México, publié en 1780. Les Aztèques ont fondé sur les îles du lac Texcoco la célèbre ville Mexico-Tecnochitlan qui dépasse en nombre d'habitants les capitales européennes. Ils ont surpris les Européens par la beauté de leur ville, mais surtout par la récurrence des sacrifices humains. Des origines toltèques à la fondation de l'Empire aztèque, on peut dire que les Aztèques ont hérité des Toltèques, artisans qui excellent dans l'art de la peinture, de la sculpture et de l'écriture pictographique. Ces derniers ont vécu dans les hauteurs du Mexique et ont fondé la ville de Tula en en 980. L'univers Toltec est composé à la fois de nomades et de sédentaires ainsi que de barbares. Suite à une fracture interne à des rivalités, l'empire de Quetzalcoatl s'est effondré et les Toltecs se dispersent. Une tribu provenant de la mystérieuse cité d'Aslan décide alors de migrer vers les steppes du nord jusqu'à l'accomplissement de la prophétie d'Huitzilopochtli, dieu de la guerre. Prophétie selon laquelle la migration du peuple prendrait fin lorsqu'il verrait sur un cactus un aigle dévorer un serpent. Elle finit par se réaliser en 1925 dans la vallée de Mexico, sur un îlot du lac Texcoco, emplacement assez inhospitalier car infesté de vipères. Les Aztèques sont polythéistes et se considèrent comme le peuple élu du soleil. Selon le mythe, à l'origine, le soleil n'existait pas. Ce sont les dieux qui, une fois réunis à Teotihuacan, se sont sacrifiés pour éclairer le monde, afin de régénérer le cosmos. Les Aztèques renouvellent sans cesse le sacrifice divin pour empêcher le retour des ténèbres. La cérémonie a lieu au sommet du grand temple sur la pierre sacrificielle, où le prêtre ouvre la poitrine pour récupérer le cœur de la victime et le faire cuire dans une urne de pierre. Les victimes portent les vêtements et ornements du dieu choisi. Il peut s'agir de prisonniers capturés lors des guerres fleuries, d'esclaves ou d'aztèques censés incarner l'image du dieu. Les sacrifices ont également des fonctions économiques et politiques. Ils doivent assurer le retour régulier de la pluie sur les cultures et maintenir la domination aztèque en éliminant physiquement les prisonniers de guerre. C'est là que je mets fin à ce moment, ce focus sur les Aztèques, ces Indiens, ces nomades qui ont donné naissance à la ville Mexico. Le temps de visiter la ville est arrivé.
La rubrique au bout de la vague.
On ne peut pas se rendre à Mexico sans visiter la cathédrale métropolitaine de Mexico. Elle est située sur le nord, sur le côté nord du Zocalo. Elle est riche de son mélange de styles architecturaux. Elle sait attirer l'attention. Si son petit air penché vous interpelle, pas de panique. Comme beaucoup de bâtiments du centre historique de Mexico, construits sur un sol marécageux, elle s'enfonce lentement dans le sol. Un fil de plomb dans la nef indique même l'inclinaison de l'édifice. On peut pas aller à Mexico sans visiter la Plaza de la Constitución ou Zócalo. Considérée comme l'une des plus grandes places du monde, la Plaza de la Constitución, en français la place de la Constitution, se situe dans le centre historique de Mexico, bordé par le Palacio Nacional, Palais National. La cathédrale métropolitaine est par de grands bâtiments à colonnes. On peut y voir flotter fièrement un immense drapeau mexicain. Le Zócalo est le lieu où se déroulent divers événements, festivals et manifestations. On y croise aussi des vendeurs de rue proposant des petits objets à l'effigie de Frida Kahlo. Un excellent endroit où commencer votre exploration de la ville. Il y a aussi le temple Mayo, enfoui durant des siècles. Ce site extraordinaire s'est révélé aux yeux de tous en 1978 lors de la construction de la nouvelle ville de Mexico. Ce sont des ouvriers qui ont d'abord fait une extraordinaire découverte, un énorme disque de pierre sur lequel un bas-relief sculpté représente Collyoyux, la déesse de lune chez les Aztèques. Les fouilles archéologiques de grande envergure ont mis à jour plus de 70 000 objets, une partie de l'énorme Templo Mayor, une structure religieuse importante du temps de Tenochtitlan. Il y a aussi le Musée national d'anthropologie, le Musée Frida Kahlo, appelé aussi la Maison Bleue. C'est dans cette maison qu'habitait l'artiste. On peut aussi voir le basilique de Notre-Dame de la Guadeloupe. De là, on peut observer un magnifique coucher du soleil. Le Palais National aussi, ou Palacio Nacional, est à visiter. C'est le siège du pouvoir exécutif fédéral. On peut monter à l'étage pour voir une exposition. Je pense qu'on a fait le tour de la ville. Déjà. Auditeur, auditrice d'Ogré des Vagues. C'est le mot de la fin. Bon, on était au bout de la vague. C'est sûr que je dois y aller. Oui. N'oubliez pas, pour visiter la ville, Mexico, c'est facile. C'est joli. C'est ancré d'histoire. C'est dans mon carnet de voyage. Ça devrait être dans le vôtre aussi. Auditeur, auditrice, je dois vous laisser. N'oubliez pas, voyager, c'est bon pour le moral.
Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le